À l'écoute de RFI 20h, ici à Paris, 18h en temps universel. Et avec Siguilleux à mes côtés dans 10 minutes, le décryptage, les Palestiniens qui racontent leur histoire. Mais pour l'heure, c'est votre journal, Alexis. Bonsoir.
Bonsoir Romain Zoui, bonsoir à toutes et à tous. Israël a frappé pour la première fois ce lundi le nord du Liban. Au moins 21 personnes ont été tuées. Israël continuera de frapper sans pitié le Hezbollah, déclare ce soir Benjamin Netanyahou. Le mouvement islamiste chiite qui a mené hier une attaque meurtrière sur une base militaire israélienne. Des migrants transférés par l'Italie vers l'Albanie, un projet clé du gouvernement de Giorgia Meloni. C'est de l'autre côté de l'Adriatique que ces migrants, tous des hommes, devront faire leur demande d'asile. Et puis une conséquence des semaines d'émeutes en Nouvelle-Calédonie. La société Le Nickel a annoncé la mise en sommeil de ses activités pour la première fois en plus d'un siècle. Hezbollah a lancé de nouveaux projectiles ce lundi vers le centre d'Israël. L'État hébreu, dont la défense anti-aérienne est mise à mal depuis 24 heures, 4 soldats ont été tués, 2 sites militaires attaqués par des drones piégés. Hier dimanche, le Pentagone a annoncé le déploiement d'un système de défense antimissile à haute altitude en soutien notamment à Israël contre les menaces de Téhéran. Pour Pierre Razou, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, ces batteries de défense ne devraient pas pour autant servir à lutter contre les engins envoyés par le Hezbollah.
C'est clairement un système d'interception de missiles balistiques ou de têtes balistiques entrantes à très haute altitude. Donc c'est absolument pas destiné à lutter contre les projectiles du Hezbollah. C'est véritablement dirigé pour contrer d'éventuels tirs de riposte iraniens ou des Houthis ou de Yémen d'ailleurs. Mais disons, après la riposte israélienne qui est attendue à la suite donc, des attaques de début octobre. Clairement, ce sont un système qui a été conçu pour arrêter les missiles balistiques. C'est plus que le dôme de fer. Encore une fois, le dôme de fer, c'est pour ce que les militaires appellent la mitraille du champ de bataille, c'est-à-dire les projectiles de faible portée, c'est-à-dire de moins d'une dizaine ou d'une quinzaine de kilomètres de portée. Là, ça vient se rajouter à la couche antimissile haute, c'est-à-dire au système Arrow et au système Front de David.
Pierre Razou avec Pierre-Olivier. Pierre Razou qui est l'auteur de Tsahal, nouvelle histoire de l'armée israélienne, publiée aux éditions Perrin. Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël continuera à frapper sans pitié le Hezbollah, y compris à Beyrouth. Benjamin Netanyahou qui s'est rendu sur la base militaire où 4 soldats ont été tués hier par un drone tiré par le mouvement islamiste. Et puis 21 personnes ont, elles, été tuées dans le nord du Liban par une frappe israélienne sur un village, bilan fourni par la Croix-Rouge. Selon un responsable de la sécurité, l'immeuble visé abritait plusieurs familles déplacées venues du sud du pays. La frappe a eu lieu après qu'un homme soit arrivé en voiture. Les efforts de secours se poursuivent sur place, fait savoir la Croix-Rouge. Et puis autre déclaration ce soir, celle de l'Iran, qui dénonce l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU à Gaza et au Liban. C'est un désastre, affirme le chef de la diplomatie iranienne, qui accuse les États-Unis d'obstruction. C'est un accord migratoire devenu réalité, le tout premier transfert de migrants illégaux entre l'Italie et l'Albanie. Il a eu lieu aujourd'hui. Un projet d'€1 milliard pour Rome qui prévoit la construction de centres d'accueil en Albanie. C'est depuis ce pays que les migrants pourront faire leur demande d'asile. Projet défendu par la chef du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni. Et pourtant, ce texte comporte des failles juridiques, Anne Lenir.
Les premiers contrôles d'identification ont été effectués à bord du navire Libra pour vérifier que tous les migrants envoyés en Albanie sont des hommes majeurs, non vulnérables et provenant de pays jugés sûrs par l'Italie comme le Bangladesh ou la Tunisie. Selon le protocole italo-albanais, les demandeurs d'asile devront obtenir une réponse dans un délai de 28 jours. Si elle est positive, ils seront ramenés dans des centres en Italie. Dans le cas contraire, ils seront expulsés vers leur pays d'origine. Pour l'opposition, cette première opération pourrait cependant marquer le début de l'échec du projet. Les partis de centre-gauche rappellent notamment qu'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne remet en question la liste des 22 pays sûrs dressée par le gouvernement italien et que la procédure de demande d'asile par liaison vidéo constitue une discrimination entre migrants. Ceux en Albanie se retrouvant beaucoup plus seuls et impuissants, souligne Elie Schlein, la secrétaire du Parti démocrate. Anne Lenir, Rome, RFI.
La justice russe condamne Laurent Vinatti à 3 ans de prison ferme. Le Français est détenu depuis le mois de juin dans le pays. Il est accusé de ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger. Laurent Vinatti était employé en Russie par une ONG suisse, le Centre pour le dialogue humanitaire, qui assure des médiations en période de conflit. Ses avocats vont faire appel. Paris estime ce soir que cette condamnation est d'une extrême sévérité. Les relations très fraîches entre le Canada et l'Inde avec une crise diplomatique entre les deux pays. Le Canada a expulsé 6 diplomates indiens. New Delhi a fait de même après avoir rappelé son haut représentant à Ottawa. L'Inde accuse le Canada d'enquêter sur cet homme ainsi que sur plusieurs diplomates dans le cadre d'une investigation pour le meurtre d'un leader sikh sur le sol canadien. Cet épisode d'expulsion intervient alors que la police canadienne a annoncé détenir des éléments de preuve sur l'implication du gouvernement indien dans des cas d'intimidation, de harcèlement et d'extorsion. La Chine ne renoncera jamais à l'option du recours à la force pour conquérir Taïwan. Déclaration de Pékin à la suite de manœuvres militaires d'encerclement de l'île ce lundi, avec le déploiement de chasseurs, de bombardiers, de destroyers ou encore de frégates. Des exercices terminés avec succès, a indiqué le porte-parole de l'armée chinoise. Opération injustifiée selon Washington. L'Union européenne appelle, elle, toutes les parties à faire preuve de retenue. Direction à présent la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique avec un profond changement économique. La société Le Nickel va mettre en sommeil son centre minier historique de Thio, un lieu qui a été dévasté par les émeutes de ces derniers mois. L'annonce a été faite aujourd'hui par la direction. C'est la première fois que l'entreprise interrompt son activité en plus d'un siècle d'existence, Altine Lazage.
Au total, ce sont les 3 mines qui composent le centre minier de Thio qui vont être mises en sommeil. Une mesure qui met à mal l'économie de la commune de la côte est de l'archipel. 230 emplois directs et 120 emplois de sous-traitance vont être supprimés. Ils viennent s'ajouter aux milliers de salariés qui ont déjà perdu leur emploi depuis le début des troubles. Xavier Benoît est président de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie.
On faisait le point encore ce matin et aujourd'hui on a plus de 25 000 salariés en Nouvelle-Calédonie du secteur privé qui sont soit en chômage partiel, soit en chômage total, ce qui représente plus de 40% des salariés du privé.
Au-delà du site, c'est toute l'activité locale reposant sur les mines qui va en pâtir. La société Le Nickel, vieille de 140 ans, était jusque-là le poumon de la région. Xavier Benoît.
C'est une excellente image de la situation d'une Calédonie qui, économiquement et socialement, est en train de s'écrouler.
5 mois après le début de la révolte, la Nouvelle-Calédonie peine à se relever économiquement. Les dégâts subis par les entreprises et les établissements publics se chiffrent à plus de 2 milliards d'euros.
Altine Lazage, l'économie en France et le gouvernement qui brandit des garanties face à la potentielle vente d'un site de production du médicament Doliprane à un fonds américain. Les ministres de l'Industrie et de l'Économie se sont rendus sur place ce lundi avec notamment la promesse que le médicament va continuer à être fabriqué en France. Et puis la suite de la trêve internationale en football, 2e match pour la France ce soir à Bruxelles au stade de Baudouin. On retrouve sur place Frédéric Suteau. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Alexis.
Coup d'envoi dans un peu plus d'une demi-heure, Belgique-France. Frédéric, c'est un grand classique. Hein.
Ah oui, et même plus que ça, hein, les deux voisins belges et français qui ne se quittent plus. C'est la 3e fois depuis le mois de juillet que les deux équipes s'affrontent. Début juillet en 8e de finale de l'Euro, victoire de l'équipe de France 1-0. Début septembre, lors de la 2e journée de cette Ligue des Nations, c'était à Lyon. Victoire là encore des Bleus, 2-0, but de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Et donc ce soir au Stade Baudouin dans la banlieue nord de Bruxelles avec des Belges, des Diables Rouges qui espèrent enfin mettre fin à cette série qui dure depuis plus de 40 ans. En match officiel, la Belgique n'a plus battu la France, mais oui, depuis 1981. Il y a bien eu des victoires contre les Bleus, mais à chaque fois en match amical. C'est dire si l'attente est longue. La Belgique privée de Lukaku et de De Bruyne qui n'ont pas été appelés pour ce rassemblement, tout comme Kylian Mbappé côté français, le grand absent. Il n'était pas là non plus pour jouer contre Israël jeudi dernier, hein, mais vous avez entendu la polémique. On a beaucoup parlé de lui. Il est parti en escapade à Stockholm sur ses jours de repos, Kylian Mbappé. On l'a aperçu même en boîte de nuit. En tout cas, il ne sera pas sur la pelouse ce soir. En attaque, Kolo Muani, Barcola et Dembélé.
Merci pour toutes ces précisions, Frédéric Suteau. Belgique-France, coup d'envoi 20h45, heure de Paris. Tout de suite, décryptage.
Décryptage. Alexis Guilleux.
C'est le tout nouveau podcast original de RFI, palestinien, disponible à partir d'aujourd'hui sur toutes les plateformes d'écoute. 5 épisodes des camps de réfugiés à Jérusalem, de Gaza à la Cisjordanie, sans oublier Israël. 5 épisodes pour une plongée historique et géographique dans la société palestinienne depuis la Nakba de 1948 au 7 octobre 2023 et à ses conséquences aujourd'hui. Que signifie être palestinien? Comment faire nation sans État? Bienvenue dans Décryptage. Et pour en discuter avec nous ce soir, l'auteur de ce podcast, Guilhem Deltaï. Bonsoir Guilhem.
Bonsoir Alexis.
Grand reporter à RFI, ancien correspondant à Jérusalem. Alors au cours de notre conversation, on va entrer dans le détail de ces 5 épisodes, écouter aussi quelques extraits pour donner un aperçu de ce voyage. Mais d'abord, Guilhem, quelle est la genèse de ce projet de podcast?
Alors, c'est un projet qui est né il y a plusieurs mois déjà, c'est un travail au long cours. C'est né d'une volonté de raconter l'histoire palestinienne à un moment où elle s'écrit de manière aussi dramatique telle qu'on peut le décrire dans les journaux tout au long de la journée sur RFI. L'idée, c'était donc de revenir un petit peu sur ces 76 ans d'histoire, de lutte nationale, mais avec des témoignages de personnes, la volonté aussi d'essayer de faire vivre ces territoires, tant par le récit de ses habitants que par des lieux, et donc d'essayer d'emmener les auditeurs à la rencontre de ce territoire pour faire vivre autant que possible l'histoire palestinienne. La volonté vraiment, c'était de porter l'histoire à hauteur d'hommes et de femmes de ces territoires.
Et pourquoi avoir choisi cette approche géographique particulière ?
Alors c'est un choix que j'ai fait parce que les Palestiniens ne vivent pas la même histoire en fonction de l'endroit où ils se trouvent, que ce soit sur ce territoire qui était appelé Palestine à l'époque où elle était contrôlée par les Britanniques, donc avant 1948, c'est aujourd'hui les territoires palestiniens et Israël, ou alors qu'ils se trouvent dans la diaspora palestinienne, qui fassent partie de ces un peu plus de 5 millions de réfugiés palestiniens. Leur rapport à Israël est radicalement différent. Les droits dont ils disposent diffèrent aussi, et donc leurs conditions de vie, les enjeux auxquels ils font face, éventuellement leurs aspirations, même si là-dessus ils se retrouvent quand même beaucoup. On le verra au cours des épisodes, mais du coup c'était une volonté de voir aussi un petit peu comment chacun vit en son endroit.
Alors il y a un choix de découpage en épisodes selon des cartes d'identité, carte d'identité réfugié, carte d'identité gazaoui par exemple, et ce choix-là il n'est pas anodin parce que les Palestiniens reçoivent bien une carte d'identité différente selon le lieu où ils vivent.
Oui, cette division géographique répond aussi aujourd'hui à une réalité administrative, ou en fait une réalité administrative dicte cette division géographique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 5 cartes d'identité pour les Palestiniens. La première possible, c'est une carte de réfugié, carte d'identité de réfugié, donc qui est décernée par l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Elle n'est pas incompatible avec une autre carte d'identité, que ce soit des Palestiniens qui vivent en Jordanie, comme on en entend dans le premier épisode, ou alors qu'ils vivent dans les territoires palestiniens. C'est la seule carte d'identité, en revanche, pour une grande partie des réfugiés palestiniens qui vivent au Liban ou en Syrie, qui n'ont jamais eu la nationalité du pays d'accueil. La deuxième carte d'identité, donc c'est pour les habitants de Cisjordanie, la troisième pour les habitants de Jérusalem, ensuite Gaza, ensuite les Palestiniens d'Israël, car 20% de la population israélienne est aussi palestinienne. Et en fait, chacune de ces cartes d'identité, alors ces 4-là sont données par Israël, et chacune de ces cartes d'identité porte une couleur différente qui marque véritablement en fait, finalement, l'espace dans lequel chaque Palestinien est autorisé à évoluer.
Alors, le premier épisode, Guilhem Deltaï, s'intitule « Carte d'identité réfugiée ». On découvre l'histoire de Mazen Al-Saleh, qui est poète, ingénieur de carrière. Il a quitté la Palestine pour aller faire des études au Royaume-Uni et il n'a jamais pu revenir après la guerre de 1967, faute d'autorisation de la part d'Israël. Il vit aujourd'hui en Jordanie. et vous l'avez interrogé sur la manière dont il vit justement son identité jordanienne et palestinienne.
C'est une bonne question. Parce que dans la nouvelle génération, certains commencent à oublier qu'à l'origine, nous étions une seule nation. On l'appelait la Grande Syrie. Avec la Jordanie, la Palestine, le Liban, la Syrie. Donc pour moi, que nous soyons palestiniens ou jordaniens, nous sommes une seule nation. Nous ne ressentons pas la moindre différence.
Vous, comment définiriez-vous votre vie ici en Jordanie ?
Je me sens à la maison. Mais la Palestine est aussi ma maison. La Jordanie est autant ma maison que la Palestine. Les deux en parallèle.
Voilà, ce premier épisode qui nous replonge donc dans les conséquences de la Nakba de 1948 et de cette guerre des six jours de 1967 pour raconter des histoires de déracinement. On rappelle, 5,9 millions de Palestiniens sont des réfugiés.
Oui, c'est ça, lors de la Nakba en 1948. Donc la Nakba en arabe, ça veut dire la catastrophe et ça désigne cet exode de Palestiniens à la création de l'État d'Israël au cours de la première guerre israélo-arabe. On parle de plus de 700 000 Palestiniens qui ont fui ou qui ont été forcés de partir à ce moment-là. Ça représente plus de 50% de la population palestinienne de l'époque. C'est donc un chiffre quand même colossal sur l'ensemble de la population. Il y a eu une deuxième vague qui est en 1967, lorsque, à l'issue de la guerre des six jours, lorsqu'Israël a conquis Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et donc effectivement, aujourd'hui, ce statut de réfugié en fait, a été transmis de génération en génération, faute d'un règlement politique. Et ça, ce sont des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sort des réfugiés palestiniens, de dire que dans l'attente d'une résolution du conflit, ce statut de réfugié se transmet.
Alors justement, Guilhem, la question de la transmission aux jeunes générations, on l'a un peu entendu dans cet extrait, comment les plus jeunes perçoivent-ils aujourd'hui cette histoire ?
Alors, les plus jeunes réfugiés. Se sentent toujours réfugiés, même si leur famille vient de villages qu'ils n'ont jamais connus, de villages qui, pour la plupart, n'existent plus. Ils se définissent véritablement par ce statut de réfugié. Ils connaissent très bien l'histoire familiale. Ils savent situer les villages, même quand ils n'existent plus, sur la carte. Ils ont, pour beaucoup, conservé la clé de leur maison perdue. Et ça, elle s'est transmise de génération en génération. Et c'est un symbole très fort qu'on retrouve dans ce premier épisode à plusieurs reprises. En fait, la clé des maisons, c'est véritablement ce qui les rattache à cette idée qu'ils ne sont pas, que là où ils sont, ce n'est pas chez eux, que chez eux, c'est ailleurs.
Oui, avec toujours cet espoir d'un jour retourner sur place.
C'est une revendication du droit au retour. Et il faut savoir que la question des réfugiés faisait partie des points qui a été laissé de côté lors des négociations d'Oslo qui ont conduit aux accords entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Ça devait faire partie des points réglés plus tard. Ça reste une question extrêmement sensible pour les Palestiniens. Et l'un des interlocuteurs que j'ai dans cet épisode signale d'ailleurs que beaucoup de combattants palestiniens viennent des camps de réfugiés. Beaucoup de représentants politiques aussi viennent des camps de réfugiés, comme pour souligner le fait que cette question des réfugiés, elle est centrale à la question palestinienne.
Alors, deuxième épisode, Guilhem, deuxième épisode qui nous emmène en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. On découvre notamment dans cet épisode l'histoire de la famille Anastas, dont la maison est entourée par le mur de séparation, mur bâti par Israël. Claire, la mère de cette famille, se souvient du jour de la construction.
On pleurait tous à chaudes larmes.
And he said, Mom,
mon fils m'a dit, « Maman,
after what we suffered,
après tout ce qu'on a subi, nous sommes restés. Nous avons tout nous bon dans la maison. » Et maintenant, on arrive à nous enterrer vivants. C'était ses mots.
Voilà, dans cet épisode, Guilhem, on retrouve plusieurs récits de ce type de Palestiniens qui vivent dans leur chair cette séparation, en fait, cette séparation physique.
Alors, elle est effectivement très présente hein, pour les Palestiniens de Cisjordanie, mais pour l'ensemble des Palestiniens, on a la plupart des épisodes qui commencent au pied d'une de ces séparations. Qui souligne donc cette division géographique administrative à laquelle ils sont soumis aujourd'hui. Et en fait, c'est effectivement quelque chose qui les limite dans leur mouvement, dans leur déplacement, dans leurs opportunités éventuellement économiques aussi, et puis surtout qui divise des familles. C'est un même peuple qui se retrouve ainsi sur ce territoire et dans les pays voisins, et donc du coup ce sont des familles qui ne peuvent plus se retrouver, ou difficilement en tout cas, mais certaines qui ne se voient plus du tout pendant des années et des années.
Et c'est aussi l'épisode le plus long qui permet de retravailler sur des aspects historiques, enfin de rappeler les aspects historiques depuis 1967, les accords d'Oslo, on en a un petit peu parlé, les deux intifadas, pour bien fixer aussi les notions et de voir comment cette histoire palestinienne s'inscrit au fil des décennies.
Oui, parce que c'était, j'ai choisi une approche géographique, il fallait faire de l'histoire aussi. Donc forcément, il y a un petit peu de chronologie. Le premier épisode sur le réfugié parle de la Nakba de 1948 et de la Naksa. Donc c'est le deuxième exode de 1967. C'était deux concepts fondamentaux et très importants. Donc comme on l'a dit, au cœur de l'histoire palestinienne. Ce deuxième épisode sur la Cisjordanie est le premier à rentrer en fait dans la vie concrète des Palestiniens. Sur le territoire palestinien aujourd'hui. Et donc, il interroge un certain nombre de concepts historiques ou revient sur des périodes. D'abord, la vie sous l'occupation israélienne et les premières années de 1967 et après, le développement des colonies, la première intifada, cette insurrection populaire palestinienne qui a conduit aux accords d'Oslo, un éventuel espoir après le retour de Yasser Arafat dans les territoires palestiniens, la mise en place de l'autorité palestinienne, espoir qui s'est un petit peu écrasé lors de la deuxième intifada au début des années 2000, et puis une dégradation finalement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 7 octobre 2023 et les événements dont on témoigne
tous les jours au quotidien sur RFI. Alors, on l'a dit qu'il y a une approche géographique dans ce podcast, mais la géographie est aussi omniprésente. Vous nous racontez, vous nous décrivez Hébron, Naplouse, le quartier de Jaffa, à Tel Aviv. C'était important de fixer le récit de ces histoires palestiniennes dans des paysages, dans des décors particuliers.
Il y avait véritablement cette volonté, effectivement, d'ancrer le récit, de faire vivre les territoires. En fait, on voulait vraiment essayer d'avoir une approche aussi immersive que possible pour les auditeurs et essayer de leur donner à voir la réalité en fait de la vie des Palestiniens aujourd'hui au cours des années précédentes, des décennies précédentes. Et donc effectivement j'ai essayé autant que possible de décrire des lieux, de raconter leurs évolutions au cours des années. C'était un ancrage aussi local à chaque fois, de trouver quelques lieux qui racontent ces différentes phases de l'histoire palestinienne.
Un autre lieu que vous décrivez, c'est Jérusalem dans le troisième épisode, avec cette carte d'identité hiérosolymitain, donc l'adjectif qui correspond aux habitants
un
de Jérusalem.
Un petit peu compliqué, voilà. Mais c'est bien lui.
Et on part à la rencontre notamment de Houda Al-Imam. Son père avait construit une maison dans Jérusalem, dans le quartier de Baqa, maison confisquée après la guerre de 1948. Et elle nous emmène ensuite dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, maison bâtie sur le modèle de l'habitation perdue.
Ma maison que je chéris beaucoup, parce que j'ai toujours très 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 peur qu'on la confisque, comme on a fait avec la maison de mon père en 1948. Parfois, je ne voyage même pas pour ne pas donner même la justification un jour que je sois absente. Et quand la guerre de Gaza a commencé, les gens ont eu peur. J'ai dit à maman, est-ce que tu veux rester, tu veux partir? Elle a dit non, pas question, on part pas, on quitte pas encore une fois. Ton père a quitté sa maison en 1948 juste pour aller dans sa maison, dans la vieille ville. Il est resté à Jérusalem et il était considéré absent.
Alors, parfois, je ne voyage même pas, dit Houda Al-Imam. cette loi sur les absents, vous en parlez à plusieurs reprises dans cet épisode. Comment elle a fonctionné au fil des années pour permettre à Israël de justifier les expropriations palestiniennes?
C'est vrai qu'elle est importante, cette loi. On l'entend dans la voix de Houda, là, dans ce témoignage, qui a perdu donc la maison familiale. Elle n'était pas née en 1948, mais la maison de son père, Baqa, c'est un quartier qui est aujourd'hui à Jérusalem-Ouest. La règle, en fait, cette loi des absents, c'est une loi donc, qui a été adoptée par Israël à l'issue de cette première guerre israélo-arabe et qui disait que les Palestiniens qui étaient partis dans des pays considérés comme ennemis, donc globalement les pays arabes, les pays de la région, allaient se voir dépossédés de leurs propriétés et que ces propriétés étaient transférées au nouvel État, l'État israélien. Et ces propriétés ont été redistribuées après, ou ont permis de loger en fait aussi les communautés juives qui sont arrivées en Israël, notamment dans un certain nombre de pays arabes où elles ont été chassées. Mais donc, du coup, voilà, les Palestiniens ont été expropriés, on va dire, d'un certain nombre d'un bon nombre de propriétés. C'est le cas beaucoup à Jérusalem, c'est le cas dans certaines villes qui sont aujourd'hui en Israël, comme à Jaffa, ou particulièrement à Jaffa. C'est une histoire qu'on retrouve aussi là-bas.
Dans le cinquième épisode. Alors avant ça, il y a le quatrième épisode qui se concentre sur la situation à Gaza, et notamment sur, là on vit en 45 minutes, la transformation de ce territoire. Guilhem, les témoignages que vous avez recueillis montrent comment on est passé de ce port ouvert sur la Méditerranée à cette enclave, prison à ciel ouvert, qui est aujourd'hui associée aux images de guerre.
Mais c'est ça, c'est Gaza qui vit sous blocus depuis 2007, hein, donc 17 ans déjà. Et effectivement, les images qu'on a de ce territoire, c'est une bande de terre coupée du monde, isolée, entourée de grillages et de murs. Ce n'est pas du tout l'histoire de Gaza. Gaza, c'est un port sur la Méditerranée, c'est une ville qui accueillait du coup des convois maritimes qui arrivaient jusque-là et d'où partaient des caravanes après vers d'autres pays de la péninsule arabique ou du Moyen-Orient. C'était une ville ouverte sur le monde et qu'il était encore en 1948. L'enclavement s'est fait progressivement au fil des années, s'est accéléré après la prise de pouvoir du Hamas dans cette enclave en 2006. Et effectivement, l'histoire de Gaza est assez tragique. On passe de cette ville ouverte sur le monde à une ville, une bande de terre enfermée qui finalement connaît guerre sur guerre, année après année.
Alors il nous reste deux petites minutes, Guilhem Deltaye. Plutôt que de parler du dernier épisode, je voulais vous poser une question pour un peu clore cette conversation. Qu'est-ce que tous ces Palestiniens qui vivent des réalités différentes ont en commun ?
Ils ont en commun d'abord une identité. Ils se définissent tous comme Palestiniens, y compris ceux qu'on désigne assez fréquemment sous le terme d'Arabes israéliens, et qui revendiquent en fait une identité palestinienne, qui préfèrent se faire appeler Palestiniens citoyens d'Israël, Palestiniens d'Israël. Mais donc cette identité palestinienne reste forte malgré donc toutes ces divisions politiques, géographiques, etc. C'est valable aussi pour les réfugiés palestiniens, même ceux qui en Jordanie ont la nationalité jordanienne. L'autre chose qu'ils revendiquent beaucoup, c'est une liberté, une liberté de pouvoir circuler, de pouvoir retrouver voilà, cette capacité à se déplacer sur l'ensemble du territoire historique, de pouvoir retrouver leur famille. Et puis la troisième chose qu'ils demandent, c'est de pouvoir choisir aussi leur destin. Alors tout ça vient évidemment notamment pour les Gazaouis après l'urgence de vivre en sécurité pour eux.
Merci Guilhem Deltaye, je rappelle vous êtes grand reporter, auteur de ce podcast palestinien, podcast réalisé par Simon Decreuse, Aurel Charlieu, Maël Guyot, coordination Steven Jambot, Antoine Bonnet et Marie Normand, prise de son Nicolas Benita. Les 5 épisodes de ce podcast palestinien sont à découvrir sur RFI.fr, sur l'application Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute. Voilà, très bonne soirée. Vous êtes sur RFI, vous restez avec nous dans 30 secondes, l'actualité africaine.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère. Les nouvelles autorités ont présenté leur vision du pays pour les 25 prochaines années. Réduction de la pauvreté, modernisation de l'économie, instauration d'un État fort. Ce programme vous semble-t-il trop ambitieux? On en parle.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.